avant de donner la parole aux étudiants, d'abord accueillir les étudiants de L3 qui avaient cours jusqu'à midi, qui nous ont rejoints, qui l'an dernier avaient eu aussi ce séminaire dans le cadre de cette UE, l'apprentissage de l'entretien. Donc, expliquer pourquoi ils sont arrivés à midi et leur souhaiter la bienvenue et vous dire aussi combien cette intervention elle fait écho à nombre de points que l'on soulève dans le cadre de ce cours, notamment sur la question des modèles, sur la question de la socialisation, sur l'enquête, sur la question de la minorité. Mais il y a un point qui a été laissé un petit peu de côté, donc je m'octroie peut-être d'abord la parole avant de vous la laisser, et de faire aussi, j'ai dit que c'était un séminaire convivial qui était l'occasion de discuter un petit peu des chantiers de nos recherches respectifs, entre milieux de sociologues, avec le regard aussi des troisième années. Je me demandais, en t'écoutant, bon, d'abord tu n'as pas trop parlé de tes recherches, c'est dommage parce que justement tu t'ancres dans cette construction du problème social que tu énonces, premièrement, donc si tu pouvais nous en dire un petit mot, et deuxièmement, sur la question de l'enquête, justement, parce que l'enquête, c'est au cœur de la fabrication des connaissances, et je voudrais que tu nous en dises un petit peu plus sur la façon dont on enquête sur la minorité. Tu vois, sur la minorité, comment l'enquête et quel type d'enquête peut-elle être utilisée à bon escient pour travailler sur la minorité, la déconstruire ou montrer comment elle se constitue. Tu vois, puisque la minorité, c'est souvent le parent pauvre de la recherche. La minorité, le statistiquement minoritaire, c'est souvent ce qui disparaît, justement, parce que ce n'est pas forcément représentatif, ce n'est pas représentatif du tout, mais c'est significatif de quelque chose. Et donc, cette signification, cette significativité-là, comment l'appréhender du point de vue de la méthodologie d'enquête? Comment situerait, plus précisément, puisque pour faire le lien avec notre cours, comment situerais-tu l'importance de faire des entretiens, la place des entretiens dans la mise au jour de la typique et dans le travail sur les minorités?
Bien. Alors, peut-être un petit mot sur mes recherches, mais vraiment, parce que je vais répondre effectivement aux questions qui intéressent au premier lieu les étudiants, l'enquête, etc. Mais un petit mot sur mes recherches, effectivement, une recherche que, voilà, quand on parle de... Constance vient de parler de minorité. Alors actuellement, je fais une recherche sur la bifurcation chez les professeurs des écoles. C'est-à-dire, ce sont des professeurs des écoles ou futurs, en fait, qui ont déjà exercé une profession, hein, ingénieur, etc., etc., enfin, pendant plusieurs années, 5, 10, 15 ans, parfois 20 ans, et qui sont en formation maintenant, donc, à l'ESPE pour devenir professeur des écoles. Bon, voilà. Alors, c'est effectivement un changement assez récent, si vous voulez, c'est une évolution récente, en fait. Et quand on les interroge, justement, entretien, donc, quand on les interroge, ces personnes, eh bien, on constate que, finalement, leur premier métier était rarement un premier choix. C'est-à-dire, c'était un choix, soit parce qu'ils étaient sur les rails, ou elles, les personnes, bon élève, par exemple, école préparatoire aux grandes écoles et une école d'ingénieur, de commerce, ou peu importe. Bon élève, donc, études de pharmacie, par exemple, etc., etc. Mais rarement le premier choix. Et finalement, quand on fouille un tout petit peu, il y a quelque chose, toujours dans l'histoire, donc là, c'est plutôt la méthode biographique, nous y sommes aussi, c'est dans l'histoire de vie de la personne, l'histoire scolaire, par exemple, eh bien, qui fait que, finalement, la personne, en gros, a toujours souhaité, a toujours voulu, mais bon, ça aussi, c'est à nuancer, a toujours voulu, parce que là, qu'est-ce que cela signifie? Mais enfin, en gros, c'est ça, voulu devenir enseignant. Pas forcément professeur des écoles, mais c'est le métier, l'enseignement. Alors, souvent, le déclencheur de la bifurcation, souvent, c'est une sorte d'insatisfaction dans le métier. Mais ce ne sont pas toutes les personnes mais même en considérant uniquement les femmes, ce ne sont pas toutes les femmes insatisfaites dans leur boulot qui changent de boulot non plus. Mais quand même, c'est quelque chose. Mais il y a une dimension assez nouvelle, effectivement, à laquelle je ne m'attendais pas trop. Et d'ailleurs, heureusement, c'est pour cela que nous faisons aussi notre métier, parce qu'on est toujours surpris d'un certain nombre de choses. Et on doute un peu, et on doute beaucoup parfois, et on est un peu surpris. Eh bien, ma surprise, c'était tout simplement la dimension éthique avancée par ces personnes. Parce qu'on pourrait croire qu'un ingénieur, quelqu'un qui est chef de projet, marketing, etc., c'est dans la performance, la rentabilité, etc., le gain financier. Il faut faire, comme disait une personne que j'ai interrogée, il faut faire de l'argent dans mon métier, il fallait. Et finalement, c'est assez... Finalement, non. Et ça, en fait, on peut recouper avec des résultats assez récents de recherche, voire d'enquête, tout simplement, d'enquête de type journalistique, pour simplifier, que beaucoup de cadres, de ce qu'on appelle des cadres de la nouvelle génération, mettent vraiment en avant la qualité, en fait, de la condition de travail. Voilà. Donc, les deux sont, finalement, je me dis, oui, en fait, ce n'est peut-être pas tout à fait une fausse piste. C'est-à-dire qu'il y a bien la dimension éthique aussi qui commence, qui a commencé et qui prend vraiment de l'importance, même dans les entreprises, les multinationales. Et peut-être que c'est un peu rassurant. Bien. Voilà. Donc, sinon, au niveau de l'enquête, hein, pour ne pas être trop long par rapport à mes recherches, parce que je mène plusieurs recherches en même temps. Au niveau de l'enquête, effectivement, il faut différencier, Constance l'a dit tout à l'heure, exhaustivité, significativité. Tout ce qui est exhaustif n'est pas forcément significatif. Et pour qu'il y ait du sens et de la signification, on n'a pas besoin d'avoir 1 million d'enquêtés. Ce n'est pas parce qu'on enquête sur 1 million de personnes, c'est forcément la vérité, vraie, réelle, etc. Voilà, donc effectivement, il faut faire cette distinction. Deuxièmement, bien évidemment, le choix de la méthode dépend toujours aussi à la fois de l'objet du sujet de recherche, mais ça, vous le savez. Hein. Il y a des méthodes qui peuvent être très séduisantes, hein, mais finalement, à quoi ça sert d'utiliser un logiciel statistique sur 85 personnes ? Mais oui, si je souhaite enquêter sur les personnes qui habitent dans un immeuble, eh bien, bien évidemment, je vais d'abord situer peut-être même la construction, quand est-ce qu'a été construit l'immeuble. Donc, une dimension peut-être, voilà, hein, une dimension au niveau urbanisme, si vous voulez, peut-être. Et ensuite, peut-être le contexte socio-économique, socio-culturel, etc., etc., etc. Et là, je n'ai pas besoin de statistiques. Mais en revanche, j'ai besoin peut-être d'aller fouiller un peu dans les archives pour contextualiser un peu la construction peut-être de ce quartier, donc de cet immeuble. Et ensuite, les entretiens, bien évidemment, avec les habitants, voire même les anciens habitants, etc. Voilà. Donc, au niveau de la question de la minorité, en fait, souvent, quand on dit minorité, c'est minorité statistiquement parlant. Mais minorité, si vous voulez, ne signifie pas absence d'activité. C'est pour cela, d'ailleurs, qu'on parle de minorité active, parfois. Hein, il y a cette expression-là, également. Alors, ce qui est intéressant, si vous voulez, ici, ce qui pourrait être intéressant, hein, ce n'est peut-être pas à moi de dire ce qui est intéressant, c'est comme le bien, le mal, c'est pas à moi de dire ce qui est bien, qui est le mal. En revanche, ce qui pourrait être intéressant, à mon sens, c'est peut-être, effectivement, quand on étudie sur une minorité, c'est de bien comprendre aussi la majorité. Mais pas foncer tête baissée sur la minorité. Je souhaite travailler sur les convertis. Je parle de religion, c'est vrai que c'est bon, mais je ne veux pas développer. Hein, c'est vraiment juste un exemple. Les convertis. Donc les personnes, les convertis, peu importe la religion, mais par exemple, les personnes de tradition familiale, enfin, etc., chrétiennes, par exemple, qui deviennent musulmanes, qui se convertissent. C'est une minorité par rapport, effectivement, aux personnes qu'on pourrait identifier. Attention, je ne parle pas d'apparence physique, etc. Je parle bien de la une sorte d'une tradition, voilà. C'est une minorité. Sauf que si je souhaite étudier sur ces personnes-là, peut-être que je vais bien observer, essayer d'analyser les deux religions, enfin, si on peut le dire comme ça, et les personnes qui sont la pratique, l'organisation, voire les dogmes, les idéologies, si on a, etc., dans le christianisme et dans l'islam. Et ensuite, peut-être, interroger des personnes chrétiennes, leur représentation des convertis, les personnes musulmanes, enfin je vais pour dire un peu rapidement les choses, ainsi que leur perception, le positionnement même de l'individu qui m'intéresse dans cet ensemble-là. Voilà. Je crois merci. Que, sauf que, pour ne pas être trop long.
Oui, alors la parole est à la salle, aux étudiants. N'hésitez pas à poser, il n'y a pas de mauvaises questions, hein, ça n'existe jamais.
Oui.
N'hésitez pas à poser des questions et éventuellement aussi à faire part de vos recherches en cours, celles que nous menons dans le cadre de ce cours sur les entretiens. Donc n'hésitez pas, si vous avez des problèmes que vous rencontrez même, ou des questions sur lesquelles vous vous êtes un petit peu arrêté, hein, provisoirement ou durablement, n'hésitez pas à nous en faire part, on essaiera d'apporter des réponses à cela. Ou vous pouvez aussi, autre type de remarques et de commentaires, rebondir sur l'intervention en demandant des précisions sur ce qui a pu être dit. Oui, une question.
Moi, c'est une question que vous avez dit que vous analysez le parcours de la personne dans votre cité. Utiliser une méthode biographique et vous utilisez un récit de vie, vous demandez aux enquêtés de rédiger même un texte.
Alors, au niveau des entretiens, c'est de façon classique, il n'y a pas de demi-possibilité. Hein, entretien en face à face ou par. Téléphone, Skype, etc. Mais en tout cas, entretien donc avec un guide d'entretien comme vous. Hein. Il y a un guide d'entretien. Je fais aussi des guides d'entretien avec la méthode que vous connaissez. Voilà. Au niveau de tout ce qui est biographique, il y a plusieurs possibilités. Tout ce qui est biographique, ça peut prendre la forme d'un récit. Voilà. Donc, récit qui concerne la personne, qui concerne peut-être, enfin, aussi des parents, la fratrie, voire, après ça dépend de la recherche effectuée, voire les grands-parents, arrière-grands-parents, pour suivre un peu l'histoire, justement, la biographie familiale, si vous voulez. Donc il y a cela. Parfois aussi, je peux demander aux personnes de rédiger. C'est-à-dire que je ne pose pas de questions, mais je donne une consigne et les personnes rédigent. Donc là, à partir de là, parfois, on a une sorte de tableau de famille aussi, en fait, hein, au final, en utilisant ce genre de méthode. Voilà, bon, le sociologue Bernard Lahire a écrit le livre Tableau de famille, donc on connaît disons l'expression, hein, voilà. Mais voilà, on peut faire des tableaux de famille aussi, bien évidemment, dans ce. Voilà, je ne sais pas si je réponds à votre question, si vous souhaitez.
Oui.
Oui.
Tout à l'heure, vous avez parlé du fait que le côté familial qui vous, mais aussi le côté de l'État. Est-ce que quand il arrive que l'idée soit contradictoire, est-ce qu'il peut y avoir une question de toi? Est-ce que l'un est plus sur l'autre? Est-ce que l'un est plus sur l'autre?
Contradictoire, qu'est-ce que vous voulez dire par là donc?
Par exemple, quand on dit que l'éducation sexuelle, quand on parle de l'éducation sexuelle, quand le côté familial ne s'est pas impliqué, c'est bien sûr.
Oui. Alors, il y a une chose, si vous voulez, c'est que contrairement à il y a quelques décennies, plusieurs décennies maintenant, à un moment donné de la vie de l'enfant, donc de l'adolescent ensuite, le père PAIRS, les pères PAIRS, supplante le père ou les pères papa. Voilà, en gros. C'est-à-dire qu'à un moment donné, en fait, l'influence du groupe des pères devient plus forte. Il suffit de regarder tous les aspects de la vie des adolescents, en fait. Quoi. différents goûts musicaux ou pratiques culturelles, etc. Mais à un moment donné, le père, les pères supplantent la famille. Ça ne signifie pas que la famille disparaît d'un coup. Mais il y a une sorte de recomposition, si vous voulez, en fait, un peu. Alors, par rapport à la question que vous posez, parce qu'en fait, votre question sous-tend autre chose, en fait, sous-tend une autre question. C'est-à-dire qu'en fait, comment pourrait se positionner l'enfant, en fait, ou l'élève, quoi, dans une classe, de façon concrète, dans une éducation sexuelle. Voilà, c'est plutôt ça, pour dire directement, je pense, votre question. Alors, effectivement, si on regarde l'organisation, le fonctionnement de l'école, etc., ça peut poser un problème, si vous voulez, au sein d'une classe, hein, dans la pratique enseignante, si vous voulez. Ce genre de décalage, parce que l'enfant, peu importe, mettons un adolescent ou une adolescente, lui pense aussi, comme ses parents, ne serait-ce qu'en partie, aussi. Et notamment sur un certain nombre de sujets, hein, dont celle-ci. Celui-ci. Alors, le problème, c'est que, si vous voulez, il faut qu'il y ait un ajustement. C'est-à-dire que l'enseignant a des choses à transmettre fondées sur un programme référentiel, peut-être conviction personnelle. On ne peut pas forcément enlever complètement conviction personnelle, même si on se doit de l'écarter dans l'enseignement autant que possible. Alors, il y a un ajustement, il y a ça. Et donc, tout ce qui vient de l'extérieur, parce que là, c'est peut-être juste donc au niveau de l'éducation sexuelle et peut-être si vous voulez, le positionnement idéologique ou religieux, etc., dans la famille. Mais on peut prendre un certain nombre d'autres sujets également, moins délicats, par exemple. Le problème, ce qui se situe, c'est que c'est l'enseignant doit considérer tout le monde, le collectif, mais aussi les individus. Sauf qu'il ne peut pas s'adapter, ce n'est pas la même chose, hein, de considérer le collectif et chaque individu, membre du collectif, et l'adaptation à chaque individu du membre du collectif. Ce n'est pas la même chose du tout. Ce qui fait donc que, premièrement, il ne peut pas s'adapter à chaque individu. C'est-à-dire que individuellement. C'est très difficile. Mais il doit faire comprendre. C'était facile, c'est simple, c'est pour ça que je ne peux pas répondre par un oui ou non. Peut-être que vous avez l'impression que je ne réponds pas tout à fait, je parle de vous collectif, directement, en faisant une phrase très nette. Mais oui, parce que c'était simple, ça serait c'était simple en fait. C'est pour ça que je suis obligé vraiment d'être un peu, voilà, d'essayer de cerner. C'est-à-dire que l'objectif de l'enseignant, en gros, c'est de faire comprendre à l'individu que, collectivement, c'est ça l'objectif. Voilà, l'objectif, ce que je transmets au collectif, c'est ça. Mais chacun de vous peut penser autrement. Mais moi, j'essaie de vous montrer que c'est ça. Voilà. Donc, peut-être que même si vous n'êtes pas d'accord, premièrement, ne polémiquez pas, ne sifflez pas, et écoutez tout simplement. Si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez discuter entre vous, à la fin, etc., etc. Parce que si on commence à relever tous les cas individuels, et à considérer, voilà, plutôt considérer, je ne dis pas, à considérer et à vouloir trouver une solution. Hein. C'est-à-dire que moi, par exemple, je ne peux pas rester concentré plus d'une demi-heure. Donc il y a trois autres élèves. Supposons que je suis prof de lycée. Il y a des élèves qui disent, moi, je ne peux pas, absolument pas me concentrer plus de 45 minutes. Et il y a un autre qui dit, moi, je peux me concentrer, mais il faut que ça soit 3 heures de cours, parce que là, je suis vraiment dedans. Comment vous allez faire? Vous allez faire un cours de 45 et 30 minutes, et 3 heures, etc. Ben non, il y a des cadres. Hein, et on essaie de trouver une certaine souplesse, éventuellement, dans ce cadre-là, à l'intérieur du cadre, mais en considérant le collectif, en ne rejetant pas les individus non plus. Vous voyez, ce n'est pas simple, mais je pense que c'est la réponse que je peux apporter. Quoi. Voilà. Oui.
Une question. Qu'en est-il lorsqu'il s'agit de structures qu'il y a un rapport différencié marqué, mais qui est accepté par les uns et les autres. Je prends l'exemple du passé culturel.
Oui.
Moi, c'est mon cas. C'est le cas que j'ai fait en France.
Oui.
Concernant les danses latines,
oui.
Je vois qu'il y a clairement le tango et ça, clairement un rapport de domination, mais un rapport différencié entre l'homme et la femme. Et ça, c'est accepté de la part des deux. Donc, est-ce que c'est la censure de la part de la femme, ou est-ce que.
Alors, avant tout, il faut distinguer différence, un certain nombre de choses. Différence, inégalité, par exemple, discrimination. Voilà. Tout ce qui est différent ne cristallise pas une inégalité. Hein, voilà. Biologiquement, les femmes et les hommes sont différents. Mais il peut y avoir des inégalités entre hommes et femmes. Et donc, nous sommes dans la problématique de genre. Bon, premièrement, tout ce qui est inégalité n'est pas issu, n'est pas le fruit non plus de discrimination, par exemple. Voilà. Parce qu'une discrimination peut créer une inégalité. Et d'ailleurs, une discrimination crée toujours une inégalité. Mais les inégalités ne sont pas forcément issues de discrimination. Voilà. Donc, après, c'est là donc qu'on essaie de placer un peu votre question, c'est-à-dire que est-ce qu'on est dans une forme d'inégalité ou juste une forme de différence? Et je pense que vous-même, vous avez la réponse.
Ben, c'est que, admettons, on parle du principe que c'est l'homme qui maîtrise la danse, qui maîtrise la chorégraphie, qui guide en quelque sorte le mouvement artistique. Que la femme, elle ne fait que suivre, de manière péjorative, on va dire. L'élan de l'homme. C'est une inégalité. Pourquoi on n'émasquerait pas les rôles? Pourquoi ce serait pas la femme qui serait maître de la science entre les deux?
Oui, c'est une question qui se pose, mais là il faut introduire, je pense, aussi ce qu'on appelle le code des conventions. C'est-à-dire que dans cette discipline, dans cette discipline-là, quelles sont les conventions et les codes admises? Admis pour les codes, admises pour les conventions. À partir de là, on peut être d'accord ou pas. Si on n'est pas d'accord, on peut raisonner effectivement en termes d'inégalité. On dit non, je ne suis pas d'accord, et on a le droit de ne pas être d'accord. Hein, on a le droit. En disant non, mais on pourrait faire autrement, par exemple, tout simplement. Voilà. Mais compte tenu des conventions et des codes en vigueur dans cette discipline, est-ce qu'on souhaite changer ou pas? Voilà. Si c'est une question. Ça peut être oui, ça peut être non, ça dépend des individus, vous me direz. Et effectivement, c'est ça. Voilà. Autre chose.
Une ultime question. On est passé des inégalités vers les codes et les codes en passant aussi par les consentements. Effectivement, le cadre d'analyse que l'on a brassé aujourd'hui est assez large et nous montre tout l'intérêt que peuvent avoir les entretiens dans l'appréhension fine, dans la saisie très fine des différences et de leurs qualifications. Est-ce que ce sont des différences? Est-ce que ce sont des inégalités? Comment ça se joue? Est-ce qu'il y a des stratégies de retournement de ces inégalités? Donc on est dans des appréhensions très très fines et les entretiens biographiques peuvent nous permettre justement combiné à de l'observation, hein, puisque dans vos cas, vous avez des données de cadrage, mais essentiellement de l'observation et des entretiens. Ces observations et ces entretiens-là, l'objectif, c'est d'arriver à produire de nouvelles questions auxquelles vous n'allez pas forcément répondre, c'est pas ce que je vous demande. Moi, ce qui m'intéresse, qui m'interpelle, et je pense que là, en tant que sociologue, on est tous d'accord, c'est de voir comment, à partir de vos observations, à partir de vos entretiens, vous allez parvenir à fabriquer un nouveau cadre de questionnement qui permettra de saisir de façon plus fine encore, de cadrer de façon encore plus serrée la réalité, enfin l'objet sur lequel vous êtes en train de travailler. Donc moi, ce que je souhaite, ma collègue ira aussi dans ce sens-là, c'est que vous arriviez à l'issue de vos dossiers, et je prends pour exemple le très bon dossier que j'avais eu l'an dernier sur un autre sujet, mais toujours s'agissant de l'entretien, d'arriver à ouvrir sur des questions, une nouvelle orientation du regard que l'on ne soupçonnait pas d'ailleurs, avant de commencer, on a parlé de la surprise, avant de commencer l'enquête. Donc c'est ça, c'est d'arriver à être au plus près, au plus fin finalement de nos objets pour découvrir d'une autre façon les multiples facettes, la complexité qui les compose.